simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'est les Régors, chaque semaine, sur les Colligaries à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive à Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, ce soir, on vous parlait un petit peu de lutte sociale.
Ouais, on va essayer de reprendre un peu du poil de la bête, parce que c'est vrai que en termes de lutte sociale et de climat, commence à faire froid, donc c'est un peu parfois désespérant, mais parce que parfois on sait pas trop où jeter le regard, on sait pas trop justement où mettre l'œil et regarder là où ça bouge. En effet, à rebours des discours dominants qui diagnostiquent ou qui prédisent l'extinction ou la marginalisation des conflits, l'examen objectif de la réalité démontre l'inverse en permanence, quoi. Malheureusement, pour nous, il n'existe pas de statistiques officielles des jours de grève. Alors, ça existait en France. Elles ont été arrêtées, je crois, en 2011. Au départ, c'était le boulot de la DARES, Direction de l'Animation, de la Recherche, des Études et des Statistiques. C'est un gros machin étatique qui compile et qui est chargé de construire et d'analyser des statistiques qui concernent le marché du travail. Donc on voit déjà que c'est pas forcément en lien avec nous ce qui nous intéresse, les conflits au travail. Mais bon, il faut savoir que les données collectées par la DARES ne couvrent environ que la moitié du nombre réel des jours de grève dans le secteur du privé. Hein, et que de toute façon, les économistes du ministère du Travail reconnaissent eux-mêmes que la nature des données utilisées, puisque c'est des données qui sont données, remontées, c'est évidemment très, ça crée forcément une grosse sous-estimation, quoi. De même que la manière des chiffres du chômage qui sont donnés par Pôle emploi et par l'UNEDIC sont très en dessous de la réalité réelle de ce qu'on peut mesurer. Effectivement, une grève, un arrêt de travail, c'est un des moyens de mesurer un conflit, mais il y a plein d'autres choses.
Surtout que t'as des débrayages des fois d'une heure.
C'est ça.
T'as des trucs vraiment incroyables, hein, qui se passent, qui est logique, normal, hein. Quand on connaît la répression qu'il peut y avoir dans les petites boîtes, souvent, les travailleurs n'ont pas trop intérêt à se lancer dans une grève d'une journée, quoi.
Et puis, c'est aussi la matérialisation dans l'imaginaire de qu'est-ce que c'est que la conflictualité sociale. Tous les jours, à la télé, dans les journaux, de la part des politiques, on nous montre, on essaye de nous faire croire que la conflictualité sociale, c'est les grands cortèges syndicaux, ou c'est dans ça. Les conflits du quotidien. Pourtant, alors que nous, on démontre, et tout le temps, dans les Grégoires, on essaye de vous montrer que c'est dans les conflits du quotidien que se matérialise la lutte de classe. Ce qu'on essaye, nous, d'expliquer comme étant la lutte de classe. Invisible, minorée, marginale, avec des formes violentes ou pas, directes ou pas, les luttes qui sont tous les jours au quotidien, dans les boîtes, dans les magasins, elles sont extrêmement variées. Ça peut être pour le paiement des heures supplémentaires, pour les salaires, pour les embauches, contre un licenciement, quoi. C'est ça, la classe. C'est une classe qui est en lutte, qui se bat et qui résiste à l'offensive permanente et continue du patronat, des employeurs. On peut par exemple trouver un exemple de la ressortition de toutes ces luttes-là sur deux Facebook que j'ai remarqué, qui s'appelle un lutte invisible, le ouais. Nom est bien indiqué, et l'autre qui est une page d'un monsieur qui s'appelle Jacques Chastain, qui effectue quotidiennement un travail de recensement de ces luttes. Voilà, c'est ça. Et effectivement, ces luttes-là, quelque part, elles sont des luttes offensives, au tout des cas positives. Ce ne sont pas à la fois, comme je disais tout à l'heure, les grands cortèges syndicaux, ou alors ces moments tragiques et particulièrement bien mis en scène de boîtes qui ferment, où t'as des gens qui sont éclatés sur le carreau, qui font des feux de palette devant la boîte, où t'as une région qui va crever, et tout le monde se dit pourquoi, c'est pas juste, c'est dégueulasse, quoi. Exemple encore, Arcoval, à côté de Valenciennes, là, où la fin de la série française, etc., c'est pas des choses qui sont positives. C'est pas les nanas de l'hôtel Hayat qui se battent contre leur patron et leurs 5 étoiles pour être intégrés à l'intérieur de la boîte. Et en fait, effectivement, c'est aussi quelque chose qui va pas du tout avec le discours syndical dominant, puisque les syndicats ont davantage pris appui sur le droit et la pratique de l'expertise pour construire et prendre en charge la défense des intérêts collectifs des salariés, comme par exemple, je le disais, dans le cas des luttes contre les suppressions d'emplois, quoi. Alors que le quotidien des travailleurs est traversé par des formes de résistance qui se développent dans les bas-côtés. Alors les formes de résistance, ça peut être mettre un truc dans sa poche, ça peut être faire un acte de solidarité, couvrir un copain, prendre une pause quand on n'a pas le droit, dire merde à son chef. Ça aussi, c'est des choses comme ça, quoi. Donc bon, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'est pas capable de mesurer tout ça, parce que c'est immense et ça se passe, quoi. Mais c'est, comment dire, l'expression plus matérielle d'une conflictualité, quoi. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le capital n'a pas réussi par ses relais politiques à imposer en France une austérité de choc, comme celle qui fait Florès dans de nombreux pays européens. Il faut être clair, évidemment, les temps sont durs. On n'est pas en Grèce, hein, on n'est pas en Italie, on n'est pas en Angleterre avec les contrats zéro heure, on n'est pas en Espagne. Hein. Pardon. Et il est bien évident que toutes ces résistances à l'exploitation de la force de travail, qu'on va entendre tout à l'heure, elles permettent, dans une dialectique évidemment action-répression, de maintenir ce rapport de force. Alors, ce soir, pourquoi cette longue introduction? Parce que c'est l'une de ces résistances qui se passe et dont on parle peu, dont on va parler ce soir dans les Grégores, en utilisant une partie de l'émission de nos camarades Vive la Sociale. Alors qui n'ont pas de mérite parce qu'ils sont à Paris, donc c'est plus facile pour eux, puisque c'est là que se concentrent beaucoup de ces luttes. Et on va écouter le témoignage d'Alain et d'Annie, qui sont des travailleurs et des syndiqués de Monoprix. Alain est délégué syndical d'un Monoprix de Issy-les-Moulineaux. Il reviendra au début de son intervention sur la répression dont il a fait preuve. Et Annie est une déléguée syndicale de Sud Commerce qui pratique à l'intérieur des Monoprix son action syndicale, quoi. Ils vont nous parler d'un mouvement qui a eu lieu, qui est très symptomatique et très emblématique de ce qui se passe actuellement dans la grande distribution, dans la moyenne distribution en l'occurrence, ouais, à Paris et dans les grandes villes, puisqu'ils nous parlaient de la lutte des salariés du Monoprix d'Asnières, qui le 20 septembre avaient une douzaine, soudainement quitté leur poste de travail et débrayé pendant une heure, alors même que certaines d'entre eux et certaines d'entre elles n'étaient pas syndiquées. Témoigner ainsi de leur ras-le-bol, hein, devant leurs conditions de travail, à savoir des dizaines et des dizaines d'heures supplémentaires pas payées. Des pressions pour travailler le soir après 22h et le dimanche, ouais, le dimanche, donc complètement dimanche. Subordonner sa vie entière l'enseigne Monoprix, à bosser comme des tarés, quoi. Et puis évidemment les pressions, les grattages d'heures, les brimades, etc., etc. Aujourd'hui, il y a une bataille qui s'engage de manière très très forte, qui est incarnée d'un côté par, mais pas seulement, ce qu'on appelle le CLICP, qui est un regroupement de la CGT du commerce et d'autres personnes, et puis les représentants des grandes enseignes de commerce pour pouvoir ouvrir n'importe quand en région parisienne, à savoir toute la nuit, mais aussi le dimanche toute la journée. Alors c'était déjà le cas dans ce qu'on appelle les zones d'intérêt touristiques, mais aujourd'hui les pressions sont de plus en plus fortes pour pouvoir étendre ces dérogations, quoi. D'ailleurs, il y a une longue tribune de la part des élus La République en marche dans le monde la semaine dernière pour pouvoir justement pousser et augmenter la cadence, comment dire, élargir le champ des droits de l'ouverture des magasins le dimanche. Alors c'est toujours quand même assez hallucinant d'entendre ce type d'argument. On imagine quoi, des Chinois qui sont embusqués le long des Champs-Élysées ou du boulevard Haussmann pour aller acheter leurs parfums à 21h05. C'est pas trop de à qui les gens parlent, quoi. De qui les gens parlent. Alors les Chinois, ils sont super bien organisés, hein. Les touristes, c'est inscrit à l'intérieur du programme. Entre 18h et 20h, il n'y a pas de problème, hein. C'est réglé. Ils ont 20 minutes, ils le font, ils savent très bien où ils vont, quoi. Non, il faut pas se leurrer. De manière naïve ou pas naïve, les députés La République En Marche, quand ils portent un truc comme ça, soit ils sont complètement débiles, soit ils sont complètement crétins, soit ils sont totalement hypocrites. L'objectif, il est clair, c'est faire péter les dernières barrières et substituer au cours normal de l'exploitation et ben des petites dérogations, quoi. Et oui, on est payé plus cher le dimanche, c'est incroyable. Et on a le droit d'avoir un repos compensateur normalement dans la semaine, quoi. On n'a pas le droit de travailler 14 jours de suite sauf pendant les vendanges, mais on a le droit de travailler jusqu'à en crever, quoi. Enfin, on n'a pas le droit. On a réussi à interdire au patron le fait de nous faire travailler jusqu'à en crever. Hein.
Ils l'ont fait pendant des dizaines d'années.
Tout à fait. Alors, on peut peut-être éventuellement revenir à ça. Hein. Ça reviendra hein, s'il n'y a pas de rapport de force. En tous les cas, bon, voilà. Je me tais. On aura l'occasion de commenter la discussion après. On va écouter Annie et Alain pendant une vingtaine de minutes. Et ils vont nous raconter la lutte des salariés du Monoprix d'Asnières.
J'ai avec moi Sylvain, Alain de la CGT Commerce, lui de la CGT, et Annie, bonjour Annie.
Bonjour.
De Sud Commerce, Sud Monoprix. Oui. Alors c'est vrai, vous êtes un peu nouveau sur ces antennes, alors vous pouvez un peu parler de ce qui se passe un peu chez Monoprix, déjà des problèmes de répression. Alain, tu peux parler de ce problème de répression?
Moi, vous savez, comme j'ai commencé ma lutte dans mon magasin quelques mois, ça fait bien avant les grandes vacances.
Oui.
Et ça s'est concrétisé. On a fait 5 rassemblements et on a fini par obtenir une bonne partie de ce qu'on réclamait, c'est-à-dire afin d'améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire des embauches. Il était hors de question qu'il y ait des salariés qui se retrouvent avoir plus de 100, une centaine d'heures supplémentaires, non payées. Et du coup, on a demandé aussi le changement de direction. Et nous, on n'a jamais demandé, on ne peut pas cautionner les licenciements, peu importe d'un membre d'encadrement. On a demandé le changement de la politique de la direction. On a obtenu des embauches, et la direction est partie par un abandon de poste, c'est-à-dire qu'il a été muté le 30 juillet, quelques jours après la victoire des Bleus.
Oui.
Personne n'était au courant. Je pense qu'il a négocié ses RTT parce qu'il était au bout de sa vie, d'après ses collègues, hein, il n'en pouvait plus, voilà. On est militant mais pas voyou, voilà. Et d'autres choses qui tardent à venir, on a un nouveau directeur depuis. Pendant un mois et demi, on n'avait pas de directeur.
Oui.
Et fin août.
Ça marchait très bien, son directeur.
Bah oui.
Un directeur, ça sert à rien, alors.
Le pognon rentrait, hein, ça changeait.
De quel magasin il s'agit?
C'était le magasin Monoprix Gambetta à Issy-les-Moulineaux, pas dans le 20e.
Voilà. Ne pas confondre.
Pas confondre avec les dans le 92. Et voilà, on a un nouveau directeur qui a pris début septembre. Apparemment, il a l'air d'être un peu plus clair, mais moins de promesses par rapport à avant, quoi. Moins de promesses, on sait très bien pourquoi, parce que avant qu'il arrive, en un mois et demi, il y a eu beaucoup de refus. Parce que vous savez que quand vous voyez un magasin où il y a des articles dans la presse, où il y a beaucoup de rassemblements, mais ça donne pas envie. Et puis à savoir aussi que le directeur d'un magasin, certes, c'est nous qui créons les profils des salariés, mais par contre, lui, il a des pop. C'est-à-dire, il est popé par, il a des grosses sommes que nous n'avons pas les moyens d'en avoir. Très matériellement, forcément, un directeur qui voit qu'il y a un magasin où il y a la grande sociale, ça ne le donne pas envie. Voilà. Là, on a eu un directeur début septembre. Je suis en train d'apprendre à les connaître. Comme on dit, on ne peut pas les juger sur un mois. On sait personnellement qu'il a été formaté. Il évitera de faire les erreurs qu'on a pu.
D'accord. Mais alors justement, dans ce mouvement, c'est un mouvement qui a touché d'autres monoprix. Pourrais-tu nous parler du cas particulier du monoprix d'Anières, justement ?
Bon, pour la petite histoire, comment dire, je crois que les mouvements à monoprix Gambetta, ça a réveillé les consciences, parce que jusqu'à présent, monoprix, on avait l'impression que tout allait bien.
Hein, sauf à Gambetta.
Sauf à Gambetta, voilà. Il aurait fallu qu'un magasin commence à bouger un peu. D'où d'autres. Il y a d'autres magasins qui ont du mal à se mettre en route, parce que c'est pas évident au niveau de l'organisation. Et comment dire, concernant Anières, c'est quoi ? C'est Anières, en fait, c'est un magasin d'où nous sommes pas représentés, notre syndicat n'est pas représentatif. À Nier, il y a trois magasins, trois monoprix, quand même une grande ville, pardon. Et un matin, jeudi matin, j'ai été appelé par un camarade qui passait à côté, comme celle que je suis un militant très déterminé. Et comment dire, il m'a alerté comme quoi il y avait un mouvement au monoprix à Nier, mairie, d'où automatiquement, qui dit rassemblement, automatiquement, je me rends sur place. Et voilà, et puis elles m'ont expliqué leurs problèmes, en sachant qu'on avait une élue pendant plus de 20 ans dans ce magasin. Malheureusement, pour des problèmes de santé, elle n'a pas pu se présenter en 2016. Et quand elle est revenue, elle s'en est rendue compte que la direction avait profité pour placer les réformistes, leurs porte-parole, la CFDT. Et malgré ça, tous les salariés, quand ils avaient des problématiques, bah forcément, ils allaient voir leur véritable élu, même si elle a pris des mandats, d'où il y a eu la grande, les fameux 20 septembre. Elles ont décidé d'elles-mêmes, hein, sans les organisations syndicales, de débrayer une dizaine, les trois quarts, c'est des caissières. Je me suis rendu compte, je vais expliquer leurs problèmes, et on se rend compte que d'un magasin à l'autre, c'est les mêmes problèmes. On n'en voit plus, et les heures supplémentaires. Et on impose aussi, parce qu'ils n'embauchent plus, mais par contre, si j'avais un contrat, vous finissez à 18h, on vous l'impose, on dit voilà, pour X raisons, vous devrez rester. Et bah, une fois vous restez, deuxième fois vous refusez, un avertissement. Évidemment, il y a leur porte-parole, le soi-disant ERP du magasin, que moi c'est pour moi, la CFD, c'est pas un syndicat, d'où ils viennent vers le seul moment où ils viennent voir les salariés, c'est juste pour comment dire, pour les réprimander, pour dire attention, sinon vous risquez d'avoir, vous refusez un avertissement. Un contrat de travail c'est 35 heures, c'est pas 50 heures. Et encore si c'est comme c'est pas payé, il y a eu la grogne comme la meneuse.
Voilà.
Voilà.
En gros, ça s'est passé hors organe syndical et là sans mandat protecteur et la meneuse.
Voilà. Oui, voilà. Elle était syndiquée, mais elle n'était pas protégée. La meneuse, comme on dit, dans aucun cas le droit de débrayer ou des grèves est interdit parce que quand vous débrayez, vous faites grève, bah vous pénalisez vous-même financièrement. Après, on est capable d'assumer. Le lendemain matin, il y a un courrier qui est passé, comme par hasard, à coïncident, il y a un courrier qui est passé, qui est parti, c'est la camarade de madame Aïchata Keïta, elle n'est pas très très loin de la retraite, je crois dans 4 ans ou 5 ans, elle sera à la retraite, elle est arrivée là-bas.
27 ans de carrière. Hein.
On va 88, hein. On l'appelle la maman du magasin, la maman quoi, du magasin, et du coup, comme elle habite dans un immeuble où malheureusement il y a beaucoup de Caïda, et deux fois les facteurs, ils se prend pas la tête, il a tendance à. Apparemment, elle aurait reçu un courrier qui est parti le 21, le lendemain du rassemblement. Elle était convoquée le 5, le jour où nous avons fait avec. Elle était présente à Nîmes, pour dire qu'on est au courant, les organisations syndicales Sud et CGT, on est au courant, et que les salariés, vous n'êtes plus isolés. Et du coup, on a préparé ces rassemblements-là. Malheureusement, l'union départementale 92, CGT et l'union locale, ils ont reçu un message comme quoi la veille du rassemblement, les 4 jours après-midi, comme quoi c'était annulé. On me l'a renvoyé et je l'ai appelé la camarade, j'ai dit écoutez, c'est pas comme ça qu'on va aller. Il faut pas, j'ai dit écoute, Alain, c'est pas possible. On a une directrice, mais c'est même pas la peine. La répression, forcément, les gens ne connaissent pas. Beaucoup de femmes seules avec un enfant, elles ont peur. Des représailles, ils ont annulé. Moi, en tant que militant, je ne sais pas comment ça parle. S'ils veulent la guerre, ben nous, c'est quoi? Personne ne sort. Mais nous, on s'était annulé. Je me suis organisé à appeler quelques camarades pour faire distribution des tracts. Il était hors de question qu'on laisse tomber. On a fait distribution, on a appelé les Parisiens. Il y a eu un article, distribution des tracts, prise des paroles pour tous les salariés. Attention, rappeler la direction. Mais par contre, Monoprix, c'est toujours comme ça. Ils n'ont jamais de moyens pour payer les salariés. Mais par contre, 25 vigiles, hein. En temps normal, c'est 3.
Ah, ils ont les sous.
Ah, là, ils ont les sous.
Il y a les sous.
Un huché, c'était pas combien les payer à 350 euros de l'heure, c'était pas quoi. Et voilà, 25 vigiles. C'est comme si les syndicalistes étaient devenus des terroristes. La prochaine fois, bah, c'est moi, il y a eu les CRS. Hein. C'est moi, il y a eu les CRS qui sont venus à l'Estac. Mais, et du coup, elle a été, comment dire, elle a été, voilà, et le lendemain, la plupart des salariés nous ont appelés, m'ont appelé, pour dire, oh là là, au bout de sa vie, c'est plus la même dictature. Elle est, ouais, elle est très très calme, tout, toute la semaine, bah, le vendredi dernier, alors qu'elle a vu Madame Aïchata toute la semaine.
Parce que là, on en est où par rapport à la procédure de licenciement?
Bah là, elle a été licenciée.
Elle a été licenciée
vendredi.
Purement et simplement.
Accompagnée d'un huissier de justice et d'un un agent de sécurité.
Voilà, c'est pas humiliant du tout. C'est jeté à la rue, escorté, sans pouvoir dire au revoir à ses camarades. T'as été licenciée comme ça, je crois, Marie-Christine.
28 ans de boîte. Et les motifs, c'est bidon.
C'est à l'américaine. Hein.
Mais ils ont évoqué quoi comme problème, hein? Qu'est-ce qu'ils ont évoqué comme, enfin, comme motif, hein?
Les motifs, c'était que, oui, elle a deux fois de retard, elle prend deux fois une minute en trop des pauses, de retard des 10 minutes, ils ont accumulé, qui date alors que cette direction-là arrivait en février. On a remonté. En fait, en grosso modo, ils n'avaient pas des raisons. Il fallait, comme les élections approchent en septembre 2019, forcément, des peurs que la CGT, la grogne monte auprès des salariés, des peurs qu'elle revienne en tant qu'ERP, forcément, bah, comme c'était la meneuse, c'est-à-dire qui encourageait, qui conseillait l'ensemble des salariés, bah, il ne fallait pas effacer la CFDT. Il fallait, voilà. Ils ont réussi, comme ils ont fait dans beaucoup de magasins, à imposer la CFDT, un syndicat, pour moi, qui ne sert à rien. Parce que c'est marrant, parce que quand on a fait les rassemblements, là, je suis resté plus tard, il y a deux salariés qui sont venus me voir. Ils me disent, ah, c'est bien tout, on a pris des photos. Ils disent, pardon, vous travaillez, oui, ils travaillent ici, mais c'est bien la CGT. Vous êtes qui? Ben, je suis délégué du personnel CFDT. Ils disent, ça vous rappelle pas les problèmes? Oui, vous savez, on m'a dit, ça ne sert à rien, c'était juste pour éviter que les syndicats voyous s'implantent, quoi. J'ai dit, mais t'as quand même des heures de délégation. C'est quoi, ça, les heures de délégation?
Ben voilà.
Ils sont au courant de rien. Hein.
Ils sont au courant de rien et puis ils sont pas payés pour être au courant. Alors, à Sud Commerce, vous avez eu un autre combat, alors moins populaire, moins lyrique, mais qui s'est déroulé sur le tapis vert de la justice, mais qui a quand même frappé là où ça fait mal, c'était au portefeuille de Monoprix. C'était contre les ouvertures du dimanche et les ouvertures de 22h.
Oui, jusqu'à 22h. Donc Monoprix a été condamné à fermer ses magasins à 21h.
Oui.
Et donc ça devait prendre effet le 16 octobre. Et donc, bon, ben, on y croyait. Et finalement, ils s'étaient octroyé eux-mêmes ce délai puisqu'ils avaient reçu l'assignation de l'huissier le 29 septembre, il me semble. Ils étaient octroyés eux-mêmes le délai du 16 octobre afin de mettre en place donc la nouvelle fermeture à 21h, hein, prévenir les salariés, prévenir les clients et tout. Et en vérité, c'était juste une stratégie pour négocier en sous-marin un nouvel accord. Et donc, on a été convoqués pour une réunion extraordinaire de CE. Et en réunion extraordinaire de CE, ben on nous a appris que ce fameux accord était signé, que c'était fait.
Par qui?
Par la CFDT, toujours
la
les mêmes. Et puis la CGC.
La CFE-CGC.
Donc ils ont conclu.
On l'appelle CGC, il n'y a que les puristes et les intéressés eux-mêmes qui veulent dire c'est CFE-CGC.
Ouais.
Parce que c'est historique, c'est que normalement, il faudrait dire CGT-FO. C'est fou.
Ils ont conclu un nouvel accord qui est toujours en dessous de la loi. En tout cas, en ce qui concerne les magasins qui sont hors zone touristique internationale.
Intensive.
Voilà. Les zones touristiques internationales, ils sont rentrés. Ils se sont alignés à la loi, c'est-à-dire 100% de majoration. Donc, ils sont alignés. Donc, ça va être difficilement attaquable. Mais pour ce qui est des monoprix dans les zones ordinaires, quoi.
Oui.
Donc là, ils sont toujours en dessous de la loi. Ils ont un petit peu amélioré. Ils ont donné 15% de majoration en plus. Ils ont donné un ticket restaurant. Ils vont rembourser un peu plus le pass Navigo. Au lieu de rembourser 50%, ils vont rembourser à 70%. Et puis, donc, ce sera soi-disant du pur volontariat. Donc, il devait également rencontrer les salariés un à un et leur faire signer un papier donc pour qu'ils se déclarent volontaires. Mais c'est plus complexe que ça parce qu'en vérité, on leur a dit tout le tort que ça pouvait faire pour les magasins monoprix s'ils étaient contraints de fermer à 21h et donc tout le tort que ça allait faire aux salariés. La baisse des primes, enfin tout un tas de choses négatives. Alors que déjà nos primes elles ont baissé.
Jusqu'à combien ?
Alain, dis-nous, toi, les primes, elles ont baissé.
Moi, je sais que je tourne dans, je m'occupe de la région parisienne, mais quand même, dans mon propre magasin, pardon, les salariés, j'étais choqué les lundis matins à voir afficher les primes d'intéressement trimestriel.
Au bénéfice.
Au troisième trimestre, 0 euro.
0 euro.
Alors que faisait quand même des bénéfices.
Ah oui. Alors donc, ils nous ont laissé sous-entendre, alors effectivement, qu'on allait pouvoir avoir encore moins que 0 euro. Alors il y a des gens qui sont tombés dans le panneau.
Oui.
On pourrait encore avoir moins que 0 euro.
C'est en brut ou en net? J'ai posé la question à un directeur en banlieue. Il dit, comme souvent, je suis en brut. Et en net, donc ça veut dire quoi, quelques centimes? On vous doit, les salariés vous doivent quelques centimes, puisque les 6 et les 0 euros, souvent ça c'est mis en brut. Donc les 0 euros sont en brut. Ça veut dire quoi?
On va les retenus.
La fiche des payes de la fin du mois, ça sera quoi? Ça sera quelques 1 ou 2 euros en moins. Après, moi, j'ai tenu juste simplement à rajouter par rapport à un truc aussi. C'est vrai que on est un peu pris en bataille partout, dans notre fédération de commerce et services, et on a eu des problèmes avec... tous les problèmes, c'est des Castorama, les Carrefour et compagnie. Après Monoprix, ils vont mettre les paquets. Et notre camarade, quand on a le Monoprix, t'as commencé par mon magasin, mais il en aura d'autres. Et puis, on n'a pas l'intention, la Fédération de Commerce Service, de baisser les bras. Ils vont nous soutenir. Et croyez-moi, ça va faire des dégâts. J'espère pour Monoprix, ils nous ont déclaré la guerre. Mais écoute, on est des militants. On ira jusqu'au bout. Et on va pas laisser tomber parce que c'est pas normal. Parce que, en fait, depuis que Monoprix a été racheté par le groupe Casino, dont le véritable patron, c'est M. Naori, et ça n'arrête pas. C'est-à-dire que les salariés, ils ne servent à rien, hein, alors que c'est nous qui créons des profits pour ces groupes-là. Ouais. Rappelle encore, ils ont quand même donné 477 millions, presque un demi-milliard aux actionnaires.
Mais zéro aux salariés.
Voilà.
Zéro aux salariés.
Ça, c'est de la gratitude.
Et nous, c'est pas normal, quoi. Nous, on n'a pas envie de payer. En fait, en grosso modo, c'est quoi? Le groupe Casino. C'est bien beau de racheter des groupes à droite, à gauche. Hein, Leader Price, Pomprix, Casino et Monoprix. Ils sont lourdement endettés. Comment vous pouvez comprendre qu'un groupe qui est lourdement endetté de 3,1 milliards d'euros, apparemment, la même année, en 2017, ils ont fait, à travers le monde, 38,7 milliards. Des bénéfices.
Eh ben, c'est des montages financiers. Cette bataille à Sud-Commerce, je vais mener toujours cette bataille du travail après 21h et la bataille du dimanche. Sud-Commerce, ça vous tient à cœur, ça, quand même.
Ah ben oui, c'est clair que... Parce que, bon, malgré ce que peut dire la direction, ça met quand même beaucoup de gens en difficulté de voir travailler le dimanche, de voir travailler au-delà de 21h. Pour les femmes qui, la plupart, habitent en banlieue, c'est compliqué, quoi.
Qui va garder les gamins?
Oui, qui va garder les gamins. Alors donc là, c'est pareil, ils ont dit qu'ils avaient amélioré la prime là pour faire garder les enfants. C'est passé de 500 à 1000 euros, mais quoi qu'il en soit, bon, c'est pas une solution non plus de faire garder ses enfants. Le mieux quand même, c'est quand même de devoir, enfin, de pouvoir s'en occuper soi-même, quoi.
Mmh. Bah, pendant ce temps-là, qui garde les enfants de la nounou?
Oui.
Hein, on se ressort pas.
Et aussi, pardon. Voilà. Et aussi, nous déjà à la Fédération de Commerce, Services et Distribution, on se bat contre le travail de nuit et des dimanches. Moi, je prends des exemples par rapport à qui veut travailler au-delà, soi-disant les participations que ce sera en Berne et compagnie. C'est faux. Moi, je vois les étudiants à Monoprix les soirs, de 21h, de 18h à 22h. C'est les étudiants, les dimanches, c'est les étudiants. Les samedis, toute la journée. Moi, les étudiants, je parle avec eux. Ils me disent, attendez. Moi, ce qui intéresserait les étudiants, que l'État augmente les vrais bourses. Parce que les étudiants, moi je le vois dans mon magasin, ils n'arrivent pas. Il a la Sorbonne, il finit à 17h, hop, à une heure après d'être au boulot jusqu'à 22h, mais le temps de rentrer chez lui parce qu'il n'a pas les moyens de trouver un petit. Souvent, ils sont en colocation. J'en parle de toi, ils sont en colocation. Ils arrivent à minuit, la plupart. Ils n'arrivent plus à poursuivre. Ils dorment dans les facs. Ils dorment. Ils n'arrivent pas à. C'est-à-dire, ils sortent des études, il n'a pas le temps de réviser. Bah, ils finissent quoi? Bah, ils abandonnent. Ils abandonnent.
Bah, c'est ça. C'est, de toute façon, c'était la statistique. Je me rappelle que c'était, en fin de compte, chez les étudiants salariés, c'est un taux d'échec de 50%. De 50%. Alors que chez les étudiants non salariés, c'est 80% de réussite. Ces étudiants non salariés qui sont soutenus par papa et maman. Par contre, quand les bourses, c'est des bourses d'État, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. On va bientôt se tirer vers le générique de fin et la conclusion. En soutien à la camarade licenciée de Asnières, il y a un rassemblement.
Oui, il y a un rassemblement. La Fédération de commerce, services et distributions avec l'UD, Union départementale CGT 92 et l'UL de Gennevilliers, ainsi que les syndicats Monoprix Gambetta dont je suis le secrétaire, appellent tous les militants qui se reconnaissent dans les valeurs, qui sont contre la casse sociale, à venir soutenir notre camarade Madame Kaïté Aïchata le samedi 27 octobre à partir des 10h au Monoprix Asnières qui se trouve, faut pas se tromper parce qu'il y a trois Monoprix, se trouve au 6 place de la Victoire, et c'est Asnières Marseille dans le 92 métro Gabriel Péri. Et voilà, on appelle tous les camarades qui sont déterminés, qui se reconnaissent dans les valeurs. Parce que ce n'est pas normal, c'est une dame qui a presque 28 ans, plus de 28 ans des boîtes, la maman du magasin. Là, en ce moment, elle est en déprime. L'Euromar, quand l'Europro, c'est absurde parce qu'elle a des problèmes de santé. Parce que quand on a des suivis médicaux, je suis désolé, on ne peut pas rester au magasin. On lui repose des pauses, des 1 minute de retard, des 5 minutes. Ça, on sait très bien, c'est faux. Et nous, à la CGT, on se battra. Et d'ores et déjà, la Fédération de commerce appelle tous les autres syndicats qui le veulent. Notamment, on sait très bien qu'on peut compter sur Sud à venir nous soutenir.
Oui. Pour rebondir sur ce que vient de dire Alain, justement, pendant ces entretiens-là où on a sondé les salariés pour savoir donc s'ils voulaient bien travailler jusqu'à 22h, donc il y a un jeune homme qui a dit qu'il ne le souhaitait plus. Donc on a fait intervenir la chef de caisse qui a dit « Ah oui, mais pour le moment, moi je suis très embêtée, si tu veux plus travailler, comment ça va se passer? Moi j'ai personne pour te remplacer et tout. » Et donc il a dit « Mais de toute façon, moi je suis sur 35 heures, voilà, vous changez mes horaires et je reste sur 35 heures et vous pouvez pas, parce qu'on lui a laissé sous-entendre qu'on pouvait à ce moment-là diminuer son contrat puisqu'il voulait plus faire une heure tous les jours. Et donc il a dit « Mais non, vous n'avez pas le droit, le directeur l'a regardé dans les yeux et puis lui a dit, vous savez, depuis les lois Macron, nous, on peut faire tout ce qu'on veut maintenant.
Ouais, malheureusement,
ils vont voir que
la preuve, c'est que maintenant, on n'a pas peur de licencier une dame au bout de 28 ans. Ça ne va pas coûter grand-chose. Hein,
non,
puisque
ça,
maintenant, c'est budgété, oui. Voilà. Donc, ça ne va pas leur coûter grand-chose. Donc, ils n'ont plus peur. Hein. C'est nous maintenant qui devons avoir peur. Eux, ils n'ont plus peur. Hein. C'est fini.
D'où l'intérêt, c'est d'être, de se regrouper, de faire la solidarité, d'aller au front avec les patrons, quoi. C'est tout ensemble qu'on arrivera, parce que tout seul dans son coin, c'est pas possible. Non. Parce que dans ces pays, il y a tellement eu de. L'histoire nous a prouvé que c'est la rue qui décide, c'est pas l'inverse.
Shoulder, suspect, who got next game, hanging us by the necks, hold on to your purses and wallets, by George, he's in the Wallace, show no shame, no malice, wondering who's this new Alice, check, 1-2-1-2, Alabama, Indiana, they be coming around asking, who the fuck is you, he be coming around that mountain, how the West was won, motherfucker didn't even run, hero, here he comes. Peace.
when you meet your master. Looking in the eye of the rapture, they lie when they say we matter. Some rather believe in a liar. Pride in the heart of believers. Well, the city ignites on fire. Where your life hangs in the balance, the innocent caught in the violence. Silence everybody that ain't like us. Devising words to divide us. Fear in the heart of the millions. 1% with their billions. Savage politicians got the whole world wiped for the picking.
Voilà, c'était assez rapide et assez court et ça survolait tous les enjeux hein, qui sont liés à l'ouverture des magasins dimanche et aujourd'hui la situation des travailleurs du commerce en région parisienne, mais aussi dans les grandes agglomérations, dans les grandes métropoles. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était aussi de voir la conviction qu'il peut y avoir, la conscience pour ces délégués syndicaux de savoir de quel côté de la barrière ils se trouvent. Hein, l'enthousiasme aussi. Ouais. On voit que la lutte n'est pas quelque chose dans lequel on baisse la tête, mais bien au contraire, quelque chose qui mobilise et qui permet de se motiver et de motiver ses camarades. Et puis aussi de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que c'est que, pour une partie de la société, la réalité de l'exploitation. On pense notamment, Alain le disait très très bien, vis-à-vis de ces femmes. Ou ces familles monoparentales, ou ces femmes célibataires qui éduquent des gosses et qui se retrouvent à la merci d'un petit chef. Et puis, de voir que dans le commerce, la distribution, la restauration aussi, tu prends tes affaires et tu dégages. Il y a vraiment une arrogance du patronat et de la bourgeoisie qui se manifeste aussi dans les attitudes de tous les jours, hein, du quotidien. Hein. Ici, hein, dans cette ville, on peut avoir des comportements, hein, on se rappelle... Hein, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà, c'était aussi ça. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que visiblement, Alain l'a abordé, le groupe Monoprix, donc Casino, en fait, hein, Jean-Charles Noiry, c'est pas passé par les cabinets de la gauche, lui, si, certainement, je reviendrai peut-être sur ce personnage-là, hein. Ouais. Pareil, hein, quelqu'un qui a bien pantouflé en public pour après faire des sons privés. Racheter beaucoup d'enseignes dans évidemment la concurrence qu'il oppose au groupe de distribution citadin urbain, hein, Carrefour. Hein, on a parlé aussi ici de la lutte des salariés vis-à-vis des Carrefour Market, pardon. Et puis cet enjeu du petit commerce de proximité, en tous les cas de ce commerce urbain et citadin où les marges sont très importantes et justement l'amplitude de l'exploitation des salariés aussi vachement.
Ouais, vachement. C'est incroyable.
Et donc, Nouari et Nahouri, pardon, et Casino, c'est la dealer price, franc prix, quasiment 60% des commerces en région parisienne. Donc, ça veut dire un gros taux d'endettement. Et donc, pour ça, il faut aller chercher le plus de profit, la plus grosse marge possible. Et ben, comme par hasard, la seule marchandise qui rapporte plus qu'elle ne coûte, hein, et ben, c'est l'exploitation, c'est la force de travail. Donc ben voilà, alors on en arrive à des situations complètement affolantes, où là je lisais des exemples d'un Franprix qui est ouvert 24 heures sur 24 avec des caisses automatiques, et dans lequel à partir de 23 heures ne sont employés que des vigiles. Dans certaines zones, pas forcément touristiques, mais simplement, on va dire, fréquentées, je pense à la rue de la Roquette, quartier de la Bastille et tout ça, des magasins qui sont ouverts jusqu'à minuit. Vraiment, enfin, je sais pas, mais moi je répète, hein, qui va acheter son yaourt bio 0% à 23h30? Enfin, c'est comme Uber, quoi. Tu vois, qui commande à bouffer à la pizza? Alors, il est pas capable de bouger son gros cul jusqu'au magasin. Il mérite pas de manger, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est de l'esclavage, c'est du domestique. Faut bien imaginer que chacun et chacune, on est de peut-être de ce côté-ci de la barrière comme de l'autre. Enfin bon, voilà la réalité de la société, de la Startup Nation, hein, et de certainement le 21e siècle tel qu'il va arriver. Mais je pense qu'on l'a souvent dit ici, on a peut-être tort de le penser, mais la protection salariale, les conventions, les droits, les horaires de travail, le salariat, la paye, le congé maladie, ce n'est qu'une parenthèse dans l'histoire du capitalisme. Hein. C'est quelque chose qui est arrivé à la fin des années 50, hein, et qui a commencé à disparaître à partir de 83 et 84. Peut-être que nous l'avons oublié, mais nous ne sommes pas sortis de l'histoire. L'histoire n'est pas que le capitalisme existe encore. La crise est toujours là. Et la fluctuation des rapports de force fait que l'exploitation, elle peut être moindre ou plus selon les rapports de force qu'on est capable collectivement d'imposer dans la société. Mais bon, tant qu'on restera dans ce modèle d'organisation sociale, faire des profits et rester avec de l'argent, il n'y en aura pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais en attendant ce jour-là, on peut toujours essayer de se bagarrer pour en avoir le maximum.
J'aurais quand même signalé quelque chose. En les écoutant, on n'a pas l'impression qu'il y a des victoires au niveau des luttes. Or, il y en a. Par exemple, au niveau du nettoyage, en région parisienne, il y a eu des victoires importantes obtenues dans les boîtes comme Honnête, par exemple.
C'est vrai.
Hein, donc, il y a quand même des espoirs, quoi. Il n'y a pas, de toute façon, Alain le dit très bien. Si on ne lutte pas, de toute façon, on ne risque pas de gagner. Hein. C'est on risque de toute façon que de perdre, c'est évident. Donc là, je crois que il y a des gens, travailleuses, qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut absolument lutter ou on est mort, quoi.
Ouais, alors celles qui luttent, et d'ailleurs, celles et ceux qui luttent, c'est ceux qui vivent, ça c'est clair. Et il y a une lutte en ce moment qui est en train de gonfler, de grandir, de grossir et de trouver un petit peu plus de résonance que justement les principaux réseaux militants habituels, même si c'est important parce que ça fait une structure, une charpente pour pouvoir tenir. C'est la lutte des femmes de ménage de l'hôtel Hayat Vendôme.
À Vendôme, ouais.
Alors là, comment dire? S'il y a des gens qui sont pas encore convaincus que la lutte des classes, ça existe dans le monde et dans le pays, il n'y a pas besoin de se prendre la tête grand. Hein. Vous allez, donc il y a des rassemblements le mardi, le mercredi, le jeudi, place Vendôme, à Paris. Vous avez d'une part le ministère de la Justice, d'autre part, le long de la place, l'ensemble des bijoutiers.
Oui.
Pour ceux qui ont encore un petit peu d'essence, hein, ils n'indiquent pas les prix des montres. Hein. Mais bon, vous pouvez vous balader, vous regarderez, des montres à 50 000 boules. Et puis là, à côté de ça, vous avez donc l'hôtel Hayat, hein, qui est aujourd'hui à 5 étoiles. Il est passé d'un 4 à 5 étoiles, donc qui devient Palace, hein, dans la catégorisation des hôtels. Alors, je crois que c'était Annie Aïssata qui m'avait dit que les chambres commençaient à partir de 1 200 €. Bon, déjà, bon, un SMIC la nuit. Bon, vraiment, si tu as économisé, hein, tu peux te faire plaisir. Et donc, pour nettoyer et préparer ces chambres, vous avez donc ces femmes qui sont là, qui sont employées par 2 sous-traitants, ce qui font que les tarifs qui leur sont proposés et le coût horaire est très légèrement supérieur au SMIC, avec des cadences infernales et évidemment des avantages qui sont complètement des avantages. Des conditions de travail et des, comment appeler ça, des droits, contrairement aux salariés du groupe Hayat, qui évidemment bénéficient, eux, d'un petit peu, de quelques miettes de la luxure. Bah oui, c'est eux qui sont le plus au contact du client, faut pas qu'ils soient trop méchants, sinon ils leur mettent dans la gueule le plateau d'argent, quoi, tu vois. Donc ils sont un petit peu calmés quand même. Mais là, évidemment, les salariés du sous-traitant, et ben, ils sont traités comme de la merde, quoi. Donc, on est à 35 jours de grève. C'est pas impossible, puisque dans d'autres hôtels du groupe Hayat, oui, il y a eu des intégrations à l'intérieur du personnel. Oui. Et alors, c'est formidable, c'est de voir ces femmes, plus ou moins jeunes, devant ces emperruqués, ces encravatés, leur dire, mais de toute façon, nous, on va tenir. C'est toi qui vas céder. Ça prendra le temps. Nous, on a le temps. Il n'y a pas de problème. Donc, on est gentil pour le moment. Et après, on viendra te rendre visite régulièrement dans ton hôtel de la Place Vendôme pour expliquer à tes clients comment elles sont faites, les chambres. Voilà. Ça, c'est la lutte de classe au quotidien, directement réel, où vous voyez une société où il y a des gens qui pourront bosser toute leur vie et qui pourront pas acheter une montre. La justice. Et en plus, la justice qui se matérialise, puisqu'il y a 3 jours, les vigiles et les flics ont attaqué le piquet de grève. Je connais pas les circonstances exactes. Par contre, je sais qu'il y a 4 personnes qui sont allées à l'hosto et il y en a une qui a 5 jours d'ITT quand même. Donc, il a dû se passer, ils ont dû avoir la main lourde, quoi. Je pense que, à la fois, sur la place, ça fait mauvais genre. Et également pour Hayat, Vendôme, ça doit commencer à leur courir un peu. Donc, ils ont trouvé d'autres prolétaires pour leur taper dessus, des vigiles. Pour le moment, les vigiles ont de la chance. Ils sont pas traités comme ils devraient être. Mais peut-être qu'un jour, ça changera aussi de ce côté-là, quoi. Mais bon, voilà. En tous les cas, c'est ça, ce qui est sûr. Dernière nouvelle, c'est que ça va renforcer leur détermination et pas autrement. Voilà. Il nous reste une douzaine de minutes et je vois que tu as un joli journal devant toi.
Oui, Courant Alternatif, donc, du mois de novembre qui vient de sortir. Il fait 36 pages. Là, d'ailleurs, la première page évoque un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une citation de Warren Buffett. Oui, il y a bel et bien une guerre des classes, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui fait la guerre et c'est nous qui gagnons. Et oui, c'est actuellement ce qui se passe. Donc, effectivement, c'est toujours bien de se dire que parmi les bourgeois, il y en a qui ont conscience que la lutte de classe existe.
Ah, il n'y a pas de problème, hein, ça c'est sûr. Hein. Et à l'intérieur de ça, d'ailleurs, on pourra, dans ce journal, à page 15, il y a un entretien avec une intérimaire d'une sardinerie de Noir-Nénet.
Oui.
Qui est vachement, vachement importante, puisque l'industrie de la sardine à Douarnenez, c'est historique. Et là, en plus, la petite bourgeoisie locale, Paulet, c'est ceux qui produisent Petit Navire et Connétable aussi.
Ouais.
C'est un des moments vachement importants de l'histoire ouvrière et notamment de l'histoire ouvrière féminine. Puisqu'il y a eu de grandes grèves ce moment-là avec une longue histoire, et elle raconte son quotidien de l'exploitation. On dirait que pas grand-chose a changé, quoi, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce journal ?
Il y a beaucoup de trucs internationaux, en particulier, il y a plusieurs pages sur le Vietnam. Il y a un autre article sur la Grande-Bretagne, immigration et social-démocratie. Et puis, il y a un article sur la grève des enseignants du printemps dernier aux États-Unis.
Ouais.
D'accord. Puis aussi, on parle bien évidemment du nucléaire. On parle aussi de l'écologie. On parle aussi des luttes sociales. Bon, il y a la lutte contre la fermeture de l'hôpital du Blanc. Je pense que, au niveau actualité, on en a parlé récemment. Il y a aussi, tu le disais, les sardinières. Et il y a aussi, bien sûr, le camp, les camps et expulsions à Grande-Synthe des migrants. Ensuite, il y a des articles sur les réformes de notre Macron, qui est dans le coin, paraît-il, à partir de demain.
Oui, pareil, je ne sais pas, mais c'est marqué sur les transports en commun. C'est-à-dire que même le mec, si on ne veut pas le voir, il nous emmerde quand même.
Il nous emmerde quand même.
Visite présidentielle, perturbation à prévoir. Alors, moi, ça va, hein, personnellement. Mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas nous qui devons être perturbés, c'est lui. Ça veut dire quoi? Alors, est-ce que ça va marcher si j'arrive en retard au boulot en disant « c'est pas ma faute, c'est la faute à Macron » C'est pas sûr. Ou alors, carrément, ne pas y aller et demander un mot. De la part de Macron, ça serait intéressant de dire à chaque fois qu'il y a une visite présidentielle dans une ville, le taux d'absentéisme dans les boîtes augmente énormément. Peut-être que ça le décidera à rester chez lui. Ah, il y a aussi des informations très intéressantes dans ce journal, et notamment une, moi, qui m'intéresse, parce que des fois, c'est vrai qu'on tombe sur des gens habillés en bleu qui sont un peu violents et qui nous obligent à rentrer dans nos secrets les plus intimes. Et depuis effectivement un an, pour les gens qui ont affaire aux farces de l'ordre, eh ben on entend que t'es obligé de donner son téléphone aux flics, de donner son code PIN, d'ouvrir son machin, ce qui fait que les flics ont eu les photos et tout, etc.
Alors c'est du bluff, hein, vraiment
et
du bluff.
Et oui. En plus, vous savez, un flic, quand il croit qu'il a raison, on ne peut rien faire de pire. Donc, il vous dit, mais si, hein. C'est comme le fait de ne pas les prendre en photo dans la rue. Ça, ils vous disent qu'ils n'ont pas le droit et tout ça. Mais bon, après, si vous voulez faire du procédurier, c'est pas grave. Mais pour savoir de quoi vous avez le droit ou pas. Bon, déjà, quand on est en garde à vue, on donne rien. Et on ferme sa bouche.
On ferme sa gueule. C'est ça.
La police, c'est la police. Elle fait son boulot, elle ramasse la merde dans les rues, elle cogne, elle tue, mais c'est pas le juge, c'est pas la justice, c'est pas là que ça se passe. Bien sûr, évidemment, le quart d'heure, il peut être difficile, l'heure, voire même les 24 heures, ils peuvent être très très durs. Mais le mieux, c'est de fermer sa bouche, de pas donner ses empreintes et de pas donner sa photo. On verra après comment ça se passera dans la justice. Vous êtes obligé de rien. Le flic, il est obligé de rien. Alors, souvent, ils se la pètent, hein, quand même. Ils font descendre l'intellectuel du commissariat, l'officier de police judiciaire. Et...
qui fait pas partie de la justice,
oui, parce
qu'il rappelait.
C'est ça. Et qui se permet de rappeler, il a fait des études, moi non plus, il y a une obligation du Conseil constitutionnel qui aurait été validée le 30 mars 2018 qui obligerait, je cite, de remettre la conviction de chiffrement aux autorités judiciaires. Alors, c'est là qu'on se rend compte quand même, c'est quand même super grave, enfin c'est grave, c'est quand même super flippant. C'est-à-dire que les flics ont tellement...
Intégré.
Ouais. Le fait qu'ils sont le glaive, le bouclier, l'épée et également, je sais pas, le chiffon qui passe, qu'ils se prennent vraiment pour Deus ex machina. Que ça soit bien clair, ils n'ont aucune autorité judiciaire.
Aucune autorité judiciaire.
Un officier de police judiciaire, c'est pas une autorité judiciaire. C'est quelqu'un qui est mandaté pour produire des actes.
Oui, tout à fait.
Et c'est quelqu'un qui
fasse son rapport et qui ne fasse pas chier.
C'est ça. Et à certains moments, qui peut incarner des procédures et valider des procédures. Alors, on leur demande pas d'être docteur en droit à ces braves Pandores. Mais faut pas vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Vous inquiétez pas. Vous allez avoir bientôt le droit de tirer, bientôt le droit de nous enterrer. Vous allez l'avoir. C'est pas la peine de chouiner, de chialer. Et on sait combien la justice est laxiste. Mais vous n'êtes pas encore une autorité judiciaire. Les tribunaux ne sont pas dans les commissariats. Hein, vous avez vu, c'est pas les mêmes bâtiments. C'est peut-être un indice pour vous, une raison. Vous avez vu, les autorités judiciaires ne sont pas habillées comme vous. C'est pas la même couleur. Peut-être également c'est une raison. Et oui, car vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas capable ou vous n'êtes pas en autorité à prononcer des jugements, quoi. Peut-être que ça arrivera, évidemment, peut-être avec notre brave sinistre de l'intérieur, qui nous ont trouvé un beau là, avec un bel accent qui chante. Ça va certainement bientôt arriver, mais soyez patients, il nous reste encore quelques droits. nous pouvons les connaître et nous pouvons surtout nous en servir. Donc on le répète, hein, à toi, futur gardé à vue, qui écoute les regards.
Tu ne donnes pas ton code PIN.
Et tu éteins ton téléphone tant qu'à faire, voilà. Et tu, éventuellement, même quand tu vas manifester, tu prends, si tu peux ne pas le prendre, ça dépend ce que
mieux,
tu fais,
ça serait
c'est
mieux. Ça
serait c'est mieux, hein, quand même, c'est des mouchards.
La géolocalisation, ça existe.
C'est ça, mais bon, tu ne dis rien, tu ne parles pas, tu attends que ça se passe, t'en profites pour attraper tes heures de sommeil perdues. En lisant Courant Alternatif et en écoutant les Grégor et les émissions que t'aurais ratées. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment se fournir ce magnifique numéro violet de Courant Alternatif ?
Il n'y a pas de problème, il suffit, il suffit de l'acheter dans les bonnes librairies, mais il n'y en a pas beaucoup. Il suffit de s'abonner, hein, ça c'est important, l'abonnement. Alors, il y a différents tarifs de l'abonnement. Si vous n'avez pas de sous, bah, ce n'est que 18 euros l'année. Si vous en avez un peu plus, c'est 30 euros l'année. Voilà, donc c'est pas trop cher quand on sait que là, il y a 3 euros pour 36 pages. Et croyez-moi, quand vous aurez lu les 36 pages, vous pouvez regarder le temps que vous aurez mis. Ça les vaut, ces 3 euros.
Donc, tu peux même dire que si jamais il y a quelqu'un, bon, c'est vrai, 20 euros, c'est pas, faut faire un chèque, faut envoyer le truc. Tu peux envoyer un billet de 5 euros et t'as 3 numéros.
Et t'as 3 numéros.
Voilà. Ça peut se faire l'année, ça paye juste le tarif postal. Et puis évidemment.
Et puis tu peux demander un numéro gratuit.
Tout à fait, sur simple demande.
Si ce numéro t'intéresse, il n'y a pas de problème, on t'enverra. C'est-à-dire moi qui fais les envois. Donc,
Mais c'est très bien tout ça, mais vous n'avez toujours pas dit comment on fait. Donc, quelle adresse mail.
Ça vient. Donc les chèques sont à l'ordre de la galère et l'adresse c'est OCL et Grégor, boîte postale 81. 213-51-058 Reims-Cedex. Mais le mieux et le plus simple, c'est d'envoyer un mail à... Il peut le faire. Vous pouvez le faire. Non, il ne peut pas le faire. Il ne trouve pas le mail. Ah, si, lechatnoir@clubinternet.fr.
Il y avait
un truc OCL quelque part, mais il a disparu. Tant pis, c'est pas grave. Enfin bon, le chat noir à clubinternet.fr.
Mais si vous allez sur notre site, vous trouverez tout ça, oui. Hein, sans problème.
Voilà.
Alors le site aussi libertaire.l'autre.net.
D'accord. Il nous reste 3 secondes. Peut-être
3 secondes simplement pour dire que pour les Rémois, il y a le vendredi 16 novembre, donc pas cette semaine, mais la semaine prochaine à 20h, à Tinqueux. À Salle Alliance, réception, donc, à Tinqueux, j'en reparlerai, je pense, lundi prochain. Il y a une rencontre avec des personnalités politiques kurdes, et puis aussi un film documentaire sur la situation au Rojava. On parlera certainement du Rojava et surtout ce qui se passe actuellement, avec l'intervention, encore une fois, de Erdogan.
C'est rue Nicolas Appert à Tinqueux, dans la zone Indus du Moulin
c'est à
des
côté
Cailles,
du
mais
K.
On aura l'occasion
c'est
d'y revenir.
C'est à côté du K.
On aura l'occasion d'y revenir.
Le cabaret K qui est très connu.
Simplement pour vous dire que ce qui nous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de... Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron ?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'était les Grégor. Chaque semaine, sur l'écho des Grégs à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive à Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.